9h-10h. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre spiritualité, bonjour, bienvenue tous les jeudis. Une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec toi et d'être avec nos auditeurs.
Vous êtes pas ravi, vous gardez votre manteau.
C'est pas grave.
Bah si, c'est grave. Moi, quand je vous vois avec votre manteau,
froid,
là, comme
froid,
ça, ça m'inquiète.
Froid,
je me trouve fébrile. Regarde, notre invité ce matin, lui, tu vois, il a...
Il s'est mis à l'aise, carrément.
Lui, il n'a pas gardé son manteau.
C'est un professeur qui est décomplexé, complètement relaxé. Voilà, c'est le professeur Karim Ifrak, c'est pas n'importe qui.
Oui, c'est qui?
Ah, c'est une grosse tête, il va se présenter lui-même.
C'est le gars qui a pas ses fiches, ça. C'est docteur de l'école pratique
des
hautes études.
Voilà, islamologue. L'école pratique des hautes études.
Demande que grosse tête soit retirée.
D'accord.
Au sens positif
du terme.
Il a la tête pleine.
Min ulama il muslimin. C'est un des savants de la communauté musulmane en France. On en a besoin.
Merci, c'est gentil.
Voilà. Et vous êtes codicologue spécialisé dans le codex du Coran. On l'expliquera tout à l'heure. Vous avez consacré un ouvrage consacré à la réforme intitulé La réforme en islam, quelques clés de lecture aux éditions Al-Bourak, ouvrage collectif.
Bon. C'est bien ça.
Imam Abdelali.
Ben écoute, la codicologie, il faut d'abord définir ce que c'est. Hein. C'est important parce que les gens, ils entendent ce mot-là, mais c'est quoi ce mot barbare, là, Philippe? Peut-être qu'on va poser la question au professeur Karim.
Je ne sais pas ce que c'est pour ça.
Je sais très bien ce que ça veut dire.
C'est ce que ça veut dire.
Je l'ai pratiqué.
C'est vrai.
Lors de mes études, on a fait.
C'est quoi la codicologie?
Codicologie.
Alors la codicologie, c'est une science qui étudie les manuscrits. Dans le cadre qui nous intéresse ici, on parle de codicologie arabe, c'est-à-dire l'étude des manuscrits en écriture arabe. Le fait de dire que c'est en écriture arabe veut dire que le manuscrit que vous avez sous la main, il est écrit en arabe, mais pas forcément. Il peut être juste un arabe phonétique, il peut être un arabe X ou Y. Mais à partir du moment qu'il est écrit avec des lettres arabes, on appelle ça un manuscrit arabe. Voilà.
Et donc l'objectif, c'est souvent parce que ces textes-là sont écrits avec une écriture très primaire, ou est-ce que vous avez par exemple l'absence des ponctuations, du shkel, c'est-à-dire des voyelles, et le travail du codicologue, ça sera donc de déchiffrer le contenu en arabe, en prenant en compte la réalité historique et géographique de l'origine du document, du manuscrit ancestral, puisque c'est un document souvent ancestral qui date de plusieurs centaines d'années.
Oui.
Et en l'occurrence, le Coran, le codex coranique, qui est un des plus anciens, bien sûr.
Oui, bien évidemment. Lorsqu'on parle d'écriture arabe, on peut tomber sur, on rencontrait un manuscrit perse écrit en lettres arabes, un manuscrit turc écrit en lettres arabes. On peut tomber sur un manuscrit juif écrit en lettres arabes. On peut tomber également sur un manuscrit berbère écrit en lettres arabes. C'est pour ça qu'on dit manuscrit en lettres arabes. Maintenant, lorsque un texte, lorsqu'il n'est pas vocalisé, généralement, ce sont des textes qui sont très anciens, qui remontent, qui sont entre la fin du 1er siècle et du 2e siècle de l'Hégire. Là, on est sur des textes qui sont pas vocalisés et qui sont rédigés dans une écriture arabe qu'on appelle déficiente, c'est-à-dire qui n'a pas été encore développée au niveau de la graphie, au niveau de la grammaire, au niveau de la vocalisation, etc., etc.
Alors, pour expliquer aux auditeurs pourquoi on parle de vocalisation, tout simplement parce que quand on écrit en arabe, on écrit d'abord les consonnes. Hein, Philippe, il n'y a dans les 28 lettres de l'alphabet arabe que des consonnes. Les voyelles, ce sont justement ces ponctuations, le trait qu'on va mettre sur la consonne, par exemple sur la lettre ta, qui est forme de petite barque avec deux petits points dessus, eh bien on va ajouter pour une voyelle, on va mettre un trait pour faire le A, un trait en dessous pour faire le I, ou un demi-rond, ou un petit waouh pour faire le O. Ou le E, ça sera un rond.
Une petite rectif à ce sujet-là, parce que l'idée galvaudée et les idées reçues, c'est que l'écriture arabe basique, ancienne, n'était ni vocalisée ni ponctuée.
Même les points du tas, ils n'existaient pas. Il fallait deviner.
Oui, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que on a trouvé des documents très anciens qui remonte jusqu'à la période du deuxième calife de l'islam, c'est-à-dire la période omarienne. Là, on est entre 15 et 20 de l'Égypte. Nous avons trouvé des documents qui sont vocalisés, qui sont ponctués. Ce qui signifie que cette première trouvaille a appelé d'autres recherches pour aboutir à l'idée que finalement l'écriture arabe était vocalisée et ponctuée, mais que ça n'était pas un usage courant, plus particulièrement dans les cercles savants. Parce que pour l'arabe, vu qu'il maîtrise sa langue et qu'il la connaît en profondeur, il n'a pas besoin ni de la ponctuer ni de la vocaliser. Et c'est là où l'amalgame il arrive, parce que avec le temps, précisément avec l'arrivée du calife Ali, et là nous sommes dans vers la période de 40 de l'Hégire, la demande de vocaliser, de ponctuer le texte arabe va se faire de façon formelle et institutionnelle.
C'est là où il y a Abou al-Aswad al-Du'ali, le fameux grand tabi'i, un savant de la langue arabe, un grammairien, le fondateur de la grammaire.
Tout à fait. Et pourquoi ? Parce que entre la période omarienne et la période du calife Ali, l'expansion de ce qu'on appelle Dar al-Islam, l'espace du monde musulman, le califat ou l'empire musulman, va connaître une expansion extraordinaire qui renferme des populations diverses et variées et qui ont besoin, vu que il y a ce besoin de connaître la langue arabe, de la rendre accessible. Et pour la rendre accessible, il n'y a pas mieux que de la vocaliser, de la ponctuer à travers une opération officielle et institutionnelle.
Bien. Alors, beaucoup de personnes dans le monde intellectuel et universitaire accuse le Coran d'avoir fait l'objet de falsifications à travers l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire en réalité, Karim Ifrak ?
Alors écoutez, cette accusation, elle a plusieurs visages. Maintenant, pour situer les choses à leur place. Le grand nombre des accusateurs ne sont pas spécialistes de ces questions-là, ne sont pas codicologues, ont une connaissance toute relative de l'histoire de l'islam, et ce sont des spécialistes qui s'inscrivent plus dans l'anthropologie ou dans l'histoire générale de l'islam. Maintenant, pour répondre de façon plus concrète à cette question-là, les études en Europe, parce que ce sont des études européennes qui ont été lancées dans ce sens-là vers la fin du 19e siècle, avec une école allemande représentée par le très célèbre Noldeke, et avec une collaboration française représentée par le très célèbre Renan, qui ont collaboré à la mise en place d'une chaire d'études sur l'histoire du Coran et du livre coranique.
Quand vous dites Renan, c'est Ernest Renan.
C'est ça.
D'accord.
Tout à fait. Ernest Renan. Et cette chaire, elle existe toujours jusqu'à actuellement. Elle est occupée par le professeur François Desroches, qui a cette chaire au Collège de France et qui traite la question de l'histoire du livre.
C'est-à-dire qu'avant cette date-là, c'est quand même bien longtemps après qu'on ait les premiers exemplaires du Coran, c'était pas posé la question.
La question était posée, mais très différemment. La question qui était posée autour du Coran, elle était plus autour de la figure du prophète, qui était considéré dans le monde chrétien médiéval, bien évidemment, comme un faux prophète.
Comme un imposteur.
Tout à fait, comme un imposteur.
C'est ce qui va se développer au Moyen-Âge.
Tout à fait. Et du coup, le livre coranique, c'est également une imposture. Alors, cette théorie, parce qu'elle a été complètement démontée par les cercles du savoir musulman, a fini par ne plus être à l'ordre du jour. Et du coup, la recherche scientifique, elle s'est plus focalisée sur l'histoire même du livre, donc une histoire à la fois humaine, à la fois anthropologique, à la fois textuelle, etc., etc., et qui va aboutir à quelques écoles qui existent toujours aujourd'hui, qui sont allemandes, françaises et anglaises. Ce sont vraiment le fer de lance de la recherche sur l'histoire du livre, et qui tentent, chacun avec ses moyens, d'accuser le Coran comme étant un livre qui a été travaillé, manipulé, forgé, etc., etc.
Bon, alors à quel moment le Coran est rassemblé ?
Alors le Coran, il est rassemblé à la période du calife Othman, mais cette information, elle est pas aussi juste que ça, parce que le premier rassemblement du livre coranique va se faire à la période du calife Abou Bakr, qui est le premier calife de l'islam.
Juste après la mort du prophète.
Juste après la mort du prophète, tout à fait. Donc il y a eu cette évidence qu'il faut rassembler l'ensemble du texte coranique qui était épars et de le mettre et de le faire figurer dans un même et unique codex. Donc
le codex, ça veut dire quoi? Parce qu'on n'a pas
on n'a pas plus un ensemble de supports sur lequel est écrit le Coran. Et à l'époque du calife, c'était très rudimentaire. C'était des plaques de pierre, c'était des palmiers, c'était des supports extrêmement rudimentaires.
Voilà, les supports étaient rudimentaires. En même temps, moi, je reste un petit peu sceptique par rapport à cette information, parce que c'est quelque chose qui circule dans les livres du hadith. Mais il ne faut pas tout construire autour d'une seule information. L'histoire du livre, de la production intellectuelle à cette période-là anti-islamique, c'est-à-dire à la période du prophète et à la période des premiers califes, n'est pas très bien connue.
Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est pas contrairement à tout ce qu'on savait et tout ce qu'on a toujours dit, le calife Othman qui le premier va donc rassembler le Coran, mais Abou Bakr.
Oui, tout à fait. En fait, ça n'est pas le calife Othman qui va rassembler le Coran. Il va institutionnaliser la production de ce qu'on appelle la version canonique du livre coranique. Mais ce travail-là, il a été fait à la base, à la période du calife Abou Bakr, mais il n'a pas été vulgarisé, il n'a pas été distribué dans
diffusé
dans les grandes capitales.
Il a fait un travail, un chantier de création de copies, tout simplement, sur la base d'un texte originel qui a obtenu le consensus des compagnons du prophète qui étaient des mémorisateurs, dont faisaient partie Zayd ibn Thabit, par exemple, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, tous ceux qui étaient les compagnons qui mémorisaient, même Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan lui-même mémorisait le Coran intégralement. Donc tous ces grands compagnons se sont mis d'accord pour avoir une seule et même version qu'on appelle al-Mus'haf al-Uthmani, ce corpus ottomanien du calife Othman ibn Affan. On parle du troisième calife de l'islam.
Il est important de préciser que c'est toujours la même commission qui a travaillé sur le premier Coran.
Oui, tout à fait.
Qui va être chargée de la diffusion du Coran canonique.
De rédiger les copies.
C'est toujours la même commission.
Est-ce qu'on peut dire version définitive pour...
Tout à fait. On peut parler comme ça. Oui, tout à fait. C'est la même. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un Coran ottomanien qu'on a aujourd'hui, le Mus'haf al-Othmani.
Non, il faut faire attention au vocabulaire parce que lorsqu'on parle de version définitive, ça veut dire que là, il se peut qu'il y ait des différences majeures ou mineures par rapport aux deux versions. On parle de la même et unique version qui va être diffusée. La différence entre le premier travail et le deuxième, c'est la volonté politique de diffuser le texte coranique. Pourquoi? Parce que entre le calife Abou Bakr et le calife Othman, il n'y avait pas encore d'empire. Le calife Abou Bakr n'avait pas d'empire. Alors que, avec l'arrivée du calife Othman, le monde musulman n'était plus concentré à Médine et à Mecque, mais il était arrivé jusqu'au fin fond du Maghreb. Et du coup, il fallait envoyer des versions, exactement, des versions qui sont originales, et qui sont statués qui portent le sceau du califat.
Et donc ce sont 7 exemplaires qui ont été rédigés par Othman ibn Affan, qu'il a diffusé, qu'il a envoyé dans toutes les contrées et qui ont été eux-mêmes les références d'autres ouvrages qui ont été ensuite recopiés dans ces contrées-là.
Mais c'était les 7 mêmes.
C'était les 7 identiques.
C'est les 7 identiques.
D'accord, voilà.
Ce sont les 7 identiques, mais...
C'est ce qu'on appelle les 7 Mus'haf.
Voilà, le Mus'haf de Othman.
C'est ce qu'on appelle le Mus'haf al-Imam, c'est-à-dire l'exemple à suivre. C'était cet exemple-là qu'il fallait suivre parce qu'il était officiel, parce qu'on peut très bien imaginer que quelqu'un, il a envoyé un Mus'haf au Maghreb ou ailleurs, et que ce Mus'haf-là, vu qu'il ne porte pas le sceau du califat, il n'est pas considéré comme authentique et certifié.
Bon, c'est passionnant. Je sais pas si on va avoir assez d'une heure pour en parler. Restez avec nous et on continue justement de profiter du savoir de Karim Ifrak, qui est donc codicologue et qui est notre invité, et du savoir de l'imam Abdelali Imamoun, c'est vrai.
Non, mais là on a un invité.
Mais c'est la complément, la fusion de vous deux. On est ensemble jusqu'à 10h.
9h, 10h. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre spiritualité, Imam Abdelali Imamoun, vous nous donnez rendez-vous tous les jeudis, hein, entre 9h et 10h sur Beurre FM. Aujourd'hui, nous avons invité, il s'appelle Karim Ifrak, et il est notamment codicologue spécialisé dans le codex du Coran. On est en train de raconter cette histoire, hein, rassemblement, ça vous
alors,
va comme
le rassemblement, Philippe, il faut bien comprendre qu'il a pour objet de protéger. Sayyidina Ali a plus tard, quand il va protéger la langue arabe en demandant à Boulassad Douali, de rédiger les règles de grammaire qui vont s'appeler nahou. Nahou, c'est l'expression qu'on utilise pour parler de la science de la grammaire. Elle vient d'une expression tenue par les mots de Ali. Quand il dit à Abul Aswad Douali, qui lui posera la question, mais par quoi vais-je commencer pour rédiger ces règles de grammaire? Il va dire, Al-lughatul arabiyya ismun wa fi'lun wa harfun imdi nahwahada. Nahwahada, ce fameux nahwahada, vers cela, commence par ces trois règles que l'arabe c'est un nom, un verbe et une préposition. Ismun wa fi'lun wa harfun imdi nahwahada. Avant lui, Uthman ibn Affan va protéger l'unité du verbe divin, de la parole divine, et il va donc ordonner que soit tous les textes, tous les ouvrages du Coran qui ont été intégrés par des annotations, des exégèses, des herméneutiques, des causes de révélation, notamment celui de Abdullah ibn Mas'ud, qui a été un grand savant, un compagnon du prophète, un des plus grands savants de l'exégèse du Coran, et qui avait énormément d'annotations autour de son ouvrage, et donc qui était un petit peu un mélange, où on craignait que le Coran soit mélangé et imprégné avec les paroles de Abdullah et les écritures de Abdullah ibn Mas'ud. Donc Sayyidina Uthman a voulu isoler et protéger le Coran de la parole incréée de Dieu, de la parole des hommes.
D'accord. D'un point de vue méthodologique, comment est-ce que le calife Othman va-t-il procéder pour justement faire ce Mossaf? On dit qu'il a été abrogé. Alors comment est-ce qu'on doit interpréter ce mot d'abrogation, et est-ce que vous l'acceptez?
Écoutez, non, il n'y a pas d'abrogation dans la version canonique du calife Othman, parce que le travail du calife Othman n'était pas de rassembler, mais de reprendre ce qui a été déjà fait de la période du calife Abou Bakr. C'est la même commission, qui va travailler sur les deux Corans, c'est-à-dire c'est la même version mais avec sur deux périodes, la période d'Abou Bakr et la période de calife. Et la méthode qui a été suivie, c'est que Zayd ibn Thabit, qui était le directeur de cette commission-là, il va aller chercher des gens qui connaissent le Coran par cœur, donc on est dans une approche orale du texte, donc ils vont aller chercher les personnes qui connaissent le texte, et pour chaque verset, ils vont prendre au minimum deux témoins qui se concordent sur la même version. Et à côté de ça, ils ont fait une comparaison avec le texte qui était écrit sur des supports épars. Et donc, pour chaque verset, il y a eu cette vérification. Une fois que ce travail, il a été achevé...
Donc là, on parle de gens qui connaissent le Coran par cœur, mais du temps du prophète.
Du temps du prophète. Voilà. Tout à fait. On est vraiment sur les premières heures de l'islam.
D'accord.
Et cette même méthode, elle va être suivie scrupuleusement par le calife Othman, parce que lorsqu'il va envoyer les versions qui sont produites par cette commission-là dans les grandes capitales de l'islam, en même temps qu'il envoie le livre, il va envoyer également ce qu'on appelle un grand qari, c'est-à-dire un grand récitateur du livre coranique, pour qu'il puisse accompagner l'apprentissage et la diffusion du livre coranique dans les capitales du monde musulman. Il ne s'agit pas juste d'envoyer un livre et de dire aux gens, allez-y, vous avez un exemplaire authentique et vous pouvez travailler dessus. Pourquoi il fait ça? Eh ben, il fait ça pour la simple raison que les livres canoniques, les ouvrages canoniques, ils ne sont ni vocalisés ni ponctués. Ce qui signifie que pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien la langue arabe ou quelqu'un qui ne connaît pas très bien le texte coranique, il peut très bien interpréter certains mots dans un sens ou dans un autre. Pour ça que le texte était complètement dénué de toute vocalisation et de toute ponctuation pour permettre ce qu'on appelle les différentes lectures du texte coranique.
Je dirais même les différentes variantes.
C'est les variantes.
Ce qu'on appelle en arabe « ahruf ». Puisque le prophète, dans un hadith authentique, nous révèle que, selon le Bukhari muslim, que le Coran a été révélé selon 7 variantes. Alors,
c'est bien
ça. Ne pas faire l'amalgame entre variantes
et versions.
Qu'on appelle en arabe « riwayat ». Riwayat, ce sont des versions selon des lectures, qu'on appelle les « qira'at ».
Et c'est pas
il y a 14 qira'at. Dans chaque qira, il y a au moins deux lectures, deux versions, deux riwayas. Il y a même derrière les riwayas des chemins ou des méthodes qu'on appelle les turuq, l'azraq ou l'ashatibi.
C'est en observation de ces variantes qui sont l'ahruf et de ces lectures qui sont l'qira'at. Beaucoup de gens tombent dans la confusion entre ces l'qira'at, les lectures et les variantes. En observation de cette règle qui est complexe, qu'ils ont décidé de laisser le texte complètement dénué.
Pour laisser les gens la possibilité
de... Exactement. Et c'est pour cette raison également qu'il a dépêché avec chaque livre un grand qari qui connaît les variantes et qui connaît les lectures pour qu'il puisse transmettre et à la fois oralement et à la fois par écrit le texte.
Donc, il y a 7 mosaf qui partent dans l'Empire musulman.
Dans les grandes capitales.
Dans les grandes capitales. De ces 7 Mossaf, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui ou pas ?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Écoutez, certaines grandes maisons musulmanes, certaines grandes bibliothèques prétendent aujourd'hui renfermer des grands Mossaf qu'ils appellent les Mossaf de Uthman. Il y en a à Topkapi, il y en a en Égypte, il y en a...
Topkapi, c'est Istanbul, hein, c'est le musée.
Voilà.
Le grand musée.
Il y en a à Istanbul.
Très grand musée.
Voilà, il y en a au Caire, il y en a à Tashkent. Moi, j'ai recensé à peu près 11 ouvrages dits du calife Uthman.
Vous avez déjà pu les consulter.
Nous les avons étudiés. Moi, j'en ai étudié quelques-uns. Et bien évidemment.
A priori, ça devrait être les mêmes alors.
C'est sûr et certain qu'ils n'appartiennent pas à la période du calife Uthman. Maintenant, ce que les gens qui ont gardé ces manuscrits qui sont très anciens, attention, qui sont très anciens, ils ne sont pas du 1er siècle de l'Égypte, mais ils sont du 2e, voire du 3e siècle de l'Égypte. Ces copies-là, ce que les gens qui les ont transmis, qu'est-ce qu'ils entendaient par là? Que ce sont des copies qui ont été faites directement sur les livres de Uthman. C'est là où il y a la nuance. Voilà.
Parce que l'imprimerie n'existe pas à l'époque,
Les corpus ottomaniens, il n'y en a aucun aujourd'hui.
Il n'y en a aucun, mais ce sont des livres coraniques qui ont été copiés sur les exemplaires authentiques et originaux.
Mais est-ce que ce sont les mêmes quand vous les consultez, est-ce que vous vous rendez compte que ce sont les mêmes? Parmi ceux qui se revendiquent de cette époque.
Écoutez, votre question elle est très intéressante et très technique. C'est un travail que j'ai fait moi-même. Ça n'est pas ma réponse. Elle n'est pas fondée sur des articles que je
universitaire,
etc. Non, c'est vraiment
ce
un
que vous
travail
avez observé. Et ce que vous avez fait.
C'est quelque chose que j'ai travaillé moi-même. Alors, on s'est rendu compte de quoi? La méthode, c'est qu'on s'est basé sur les livres coraniques les plus anciens existants. Et lorsqu'on parle ici de livres coraniques, il faut être très précis au niveau du vocabulaire. Ça n'est pas des livres entiers, mais ce sont juste des feuillets et qui existent encore de ces siècles révolus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs exemples. On a le célèbre Mushaf de Sana'a. Ce célèbre Mushaf de Sana'a qui a été trouvé dans la grande mosquée de Sana'a, il a été étudié de très près, notamment par le carbone 14, et qui a fini par le dater autour de la première moitié du premier siècle de l'Égypte. C'est-à-dire, on est entre 50 de l'Égypte, 50-60 de l'Égypte.
C'est-à-dire, après la mort de Sayyidina Ali?
après la mort
la période
de
Sayyidina Ali, la dynastie des Omeyyades.
Exactement, vers la fin du premier calife et le début de la dynastie Omeyyade. Ce qui fait quand même que nous avons des textes qui sont très très anciens.
C'est très proche.
C'est très proche, ouais. Tout à fait. Un seul exemple peut être un accident. Mais lorsque vous avez un deuxième exemple, c'est-à-dire des feuillets qui sont consultables, tout ce que je dis là est consultable et vérifiable, bien évidemment, qui se trouvent à la bibliothèque de Londres et que les travaux de recherche dessus le datent également vers la première moitié du premier siècle, également vers 40, 50, 60. Nous avons également un mushaf, enfin des éléments de ce mushaf là qui ont été vendus par la grande maison Christie's, et ces quelques feuillets, ils ont été vendus autour de $1 million. Ça, vous imaginez bien qu'on
et
le
qui achète
pas.
Ça parce que ça devrait
c'est des collectionneurs, c'est des bibliophiles.
Ça devrait partir à Al-Azhar ou ça devrait partir
dans des musées.
Il y a beaucoup d'Européens qui achètent ce type de
Mais normalement, ça devrait pas être à vendre, ce genre de choses. Est-ce que c'est normal qu'on vende le Coran des documents aussi importants qui sur laquelle se fonde une religion tout entière que constitue 1,5 milliard
Oui, mais en même temps, on pourrait être d'accord avec vous, mais en même temps, c'est compliqué parce que quelque chose qui appartiendrait à une personne de façon privée, il a parfaitement le droit d'en faire ce qu'il veut. Donc après, c'est compliqué. Nous avons d'autres feuillets, notamment celui de la Bibliothèque nationale de France, l'Arabe 328, qui a été daté autour de la deuxième moitié du premier siècle, c'est-à-dire on est entre 60 et 70 de l'Hégire. Donc tous ces éléments-là, ils permettent de dire que le texte coranique, il a existé à cette période-là, mais lorsqu'on le vérifie, c'est ça qui est intéressant, lorsqu'on le vérifie, parce que là, ce que je viens de citer, ce sont des feuillets de Coran qui datent de la première moitié du premier siècle de l'Hégire. Maintenant, lorsqu'on les compare avec des livres coraniques entiers et complètement intégrales, qui dateraient du 2e siècle, du 3e siècle, du 5e siècle, du 7e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire plusieurs siècles derrière, et qui ont été produits non pas dans le même espace, parce que ces Corans-là, ils sont supposés avoir été produits soit à Médine, soit à Koufa, parce que très vite, la capitale de l'islam se déplace vers Koufa. Mais
ensuite,
ce sont...
Bagdad, et ensuite Damas, Bagdad.
Koufa, c'est où?
C'est
là où est enterré Ali, à côté de Najaf.
C'est en Irak.
C'est Najaf et Koufa, voilà.
Donc nous avons des Corans qui ont été produits en Égypte, qui ont été produits au Maghreb, en Andalousie et ailleurs. Et lorsqu'on les compare, on se rend compte que ce sont les mêmes textes à l'identique. À l'identique.
Et sans oublier le caractère notoire, c'est-à-dire populaire, de sa mémorisation par des centaines de milliers de gens et après qui se sont développés en millions. Ce qui fait que le Coran aujourd'hui que l'on a et qui est distribué à travers le monde en arabe, que vous faites le tour de la planète, vous trouverez le même texte.
Le témoignage.
Contrairement à la Bible, contrairement aux anciens textes bibliques, où là vous avez des versions extrêmement variées, alors que nous non. On n'a pas cette variance. La variante que l'on peut avoir, c'est simplement sur la manière de l'écrire ou sur une manière de prononcer. Mais le texte en lui-même est là, en dur. Le fond est là.
Le témoignage que je viens d'apporter, il a totalement infondé toutes les écoles européennes qui pointait du doigt l'authenticité du texte. Parce que toutes les recherches antérieures, elles n'étaient pas basées sur ce qu'on appelle les preuves matérielles, mais elles étaient basées juste sur des théories. Et lorsque vous avez sous la main des feuillets de Coran très anciens, donc vous avez des preuves matérielles, eh ben vous cassez toutes les théories qui ont été développées avant, parce qu'en réalité, ça n'était que des théories.
Alors, on va pas démarrer le prochain sujet tout de suite parce qu'on va avoir beaucoup de temps pour le faire. Et c'est vrai que vous êtes passionnant, on est suspendu à vos lèvres. On parle du Coran aujourd'hui jusqu'à 10h.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre spiritualité, Imam Abdelali, nous avons un invité aujourd'hui, il s'appelle Karim Ifrak. Il est codicologue spécialisé dans le codex du Coran. Les versions du Coran qu'on peut consulter de cette première partie, de cette première moitié du premier siècle de l'Hégire, comment sont-ils organisés? Est-ce qu'ils sont organisés comme on connaît le Coran aujourd'hui, en sourates et en versets?
Vous savez, je vais répondre à votre question par une anecdote. Lors d'un colloque international, j'avais rencontré des collègues musulmans qui sont spécialistes des lectures et des variantes du texte coranique. Et pour la première fois, lorsqu'ils rencontrent un codicologue, la question qu'ils m'ont posée, mais à quoi ça sert finalement la codicologie? Parce qu'on comprend pas, c'est quelque chose qu'on connaît pas. Pour information, la codicologie, elle a été développée en Europe à partir des années 50. Donc en termes d'âge, c'est quelque chose qui est très jeune, et dans beaucoup de milieux scientifiques, les gens connaissent pas la codicologie. Donc ces spécialistes du texte coranique m'ont posé la question, mais à quoi ça sert? Alors ma réponse, elle a été très simple. Je dis, vous savez, quand vous ouvrez le livre coranique, la première chose que vous rencontrez, c'est la basmala, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette basmala, on la rencontre dans toutes les sourates, dans les 114, ou plutôt 113 sourates du livre coranique. Moi, je vous pose une question.
Pourquoi 113?
Parce qu'il y a une sourate qui 113. Ne renferme pas la basmala. Voilà, tout simplement.
C'est la sourate 9, la sourate
Tauba.
On appelle aussi sourate Bara'a, le repentir.
Voilà. Donc,
Donc, ça compte pas pour une sourate.
Ah si,
elle compte, mais il n'y a pas de basmala.
Bon, la raison, elle est simple, c'est simplement parce que cette sourate-là, elle vient pour se désavouer des idolâtres et des adorateurs d'idoles, etc. Et donc, Dieu manifeste au début de cette sourate sa colère, donc sa détermination à être intransigeant et non pas dans une logique de miséricorde, de pardon, etc. Là, il veut vraiment construire les bases et les fondations de son dogme, de son credo de l'unicité. Donc là, il est dans une démarche intransigeante et ferme et beaucoup plus rigoureuse à l'égard de ses créatures, de ses serviteurs, de ses êtres humains. Et donc là, il dit Bala Atun. Il commence par tout de suite, genre, je me désavoue de tous ces idolâtres. Et donc, il ne peut pas commencer par miséricorde, miséricordieux, etc. Donc, il y a une logique derrière tout ça. Ça, c'est une des explications qui a été donnée par les exégètes en la matière.
Donc, ma question, je disais, donc, ces basmala qu'on rencontre dans l'ensemble du texte coranique, comment vous, spécialiste des lectures et des variantes, pouvez-vous être sûr que ça a toujours existé? Comment savoir si la basmala n'a pas été rajoutée au 5e siècle, ou au 7e, ou au 10e? Comment savoir si dans l'ensemble du Coran, on va rencontrer la basmala, sauf dans la 9e sourate? De la même façon, comment être sûr que le texte coranique, le texte coranique qui commence par la sourate 1 et qui finit par la sourate 114 était classé dans cet ordre-là? Comment savoir que les versets qui sont dans les sourates elles-mêmes sont classés dans cet ordre-là? Comment savoir que les versets qui sont dans les sourates peuvent être de 114 ou de 200 ou de 300? Et c'est là, oui, c'est vrai, ça les a tout de suite bloqués. Je dis, la codicologie, qui permet une étude à travers l'histoire et à travers la transmission du savoir et à travers la production intellectuelle écrite, de vérifier si ce que nous pensons être vrai l'est effectivement ou pas. Ça sert à ça.
Vous êtes trop fort. Mm-hmm. Mais ouais, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais vous êtes fort quand même. Donc, est-ce que ça veut dire que déjà, à cette époque, on était déjà dans cette structure-là?
Tout à fait. Lorsqu'on est revenu sur les...
Donc la réponse est oui, Philippe.
Oui, c'est ça. Je voulais l'entendre. Oui.
Dans
les premières versions qu'on a, on a déjà ça. L'organisation,
exactement,
la structure telle qu'on l'a aujourd'hui.
C'est ça.
Tout à fait.
Il faut rajouter également une information qui est capitale. Dans le monde musulman, lorsqu'on écrit un mushaf, donc un livre coranique, on ne s'appuie pas sur un exemplaire écrit. Ça ne marche pas comme ça. On va aller constituer une commission qui est composé de grands spécialistes du livre coranique, et c'est eux qui vont l'écrire en se basant sur la connaissance par cœur du texte. Et une fois que c'est fini, qu'on fait une vérification avec en élargissant un petit peu la commission. pourquoi on ne se repose pas sur un exemplaire écrit? C'est parce que on peut jamais savoir si cet exemplaire-là, il est bien écrit ou pas. Alors quand vous voyez que pour chaque mushaf, il y a des commissions qui ont été développées à travers le monde et que ces commissions-là étaient très espacées, autant sur la question de la géographie, de l'espace géographique que sur l'espace-temps, et que ces gens-là ne se sont jamais rencontrés, et que vous vérifiez le Coran des uns et le Coran des autres, et que vous voyez que finalement, tout se concorde. Alors, c'est juste extraordinaire.
Un exemple, Philippe, qui pouvait avoir comme divergence sur, par exemple, les noms des sourates. Il existe des avis, des versions. De la même manière que le Coran lui-même a fait l'objet de petites variantes et de, qu'on a évoquées tout à l'heure, y compris dans les noms des sourates, puisque il faut savoir que même les noms des sourates sont liés à la révélation. C'est Dieu qui disait au prophète, voilà, cette sourate-là, tu vas l'appeler comme ci ou comme ça. Mais apparemment, le prophète aurait transmis les noms des sourates parfois différemment, avec des noms différents. Par exemple, sourate Ghafir porte aussi le nom de sourate Al-Mu'min, la sourate Al-Mu'min, la sourate du croyant, qui est en même temps la sourate du pardonneur. Sourate Al-Isra, par exemple, qui est le voyage nocturne, s'appelle aussi sourate Israël, la sourate Israël, qui est le prophète Yaqub alayhi salam. Sourate Tawba, on l'a évoqué tout à l'heure, la sourate Tawba qui porte le nom de sourate Bara. Et ainsi de suite, vous avez des variantes, mais qui ne changent en rien le corpus en tant que tel, qui n'est ni codifié, voyélisé, comme on disait tout à l'heure, ni ponctualisé, et qui donne la possibilité à chacune des variantes de s'émanciper selon le dialecte ou la langue, parce qu'on parlait carrément de l'orat, l'orat Bani Tamim ou l'orat Himyar ou l'orat Al-Hijaz, etc. Vous aviez des langues. Et le prophète lui-même dit que quand vous êtes en désaccord sur une variante, eh bien, référez-vous à Quraysh. Il disait que c'était Quraysh, c'est-à-dire les habitants de la Mecque, qui étaient les plus proches de la langue arabe authentique et donc de l'authenticité de comment doit-on prononcer tel ou tel mot dans le Coran. Et énormément de mots dans le Coran font l'objet de divergences aujourd'hui que l'on considère comme étant complémentaires. Une forme de diversité de prononciation des mots qu'il y a dans le Coran. Par exemple, tu écris le mot ha, ya et ta. Bon, ha, c'est un mot, un sigle comme ça. Puis après, il y a deux petites barques avec deux points en bas et deux points au-dessus. Eh bien, ha, haït. Eh bien, il est élu en sept variantes. Haït alak, hiitulaka, haïtulaka, hiitulaka. Et ainsi de suite. Le même mot a été prononcé selon chaque endroit et chaque contrée arabe différemment pour adapter le mot approprié selon le dialecte du pays dans lequel ou dans la contrée où est-ce qu'il était prononcé, pour ne pas s'opposer à la manière de prononcer par ces arabes-là.
Cette diversité que vient de citer.
Voilà, diversité, pas de contradiction.
Voilà, l'imam
Abdelali,
elle s'inscrit plus dans la diversité que dans la divergence. Dans ce qu'on appelle les sciences coraniques, ulum al-Qur'an, il y a une thématique qui porte le titre de at-tawassu' fil ma'na, c'est-à-dire l'extension du sens. Lorsque vous prenez la sourate luminaire, la toute première sourate du Coran, Al-Fatiha, vous avez, selon les lectures, une lecture qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki, Maliki Yawmiddin, et une deuxième lecture qui va dire Maliki Yawmiddin.
Malik, c'est celui le propriétaire,
exactement.
Et le Malik, c'est le roi.
Ces deux vocabulaires renferment deux sens, non pas divergents, mais complémentaires, qui apportent une dimension significative beaucoup plus large et qu'on ne peut se permettre que dans le cadre des lectures.
Bon, vous êtes codicologue. Des codicologues, il y en a dans toutes les religions aujourd'hui.
Tout à fait.
Quelles sont les découvertes donc concernant le monde musulman qu'on continue à faire aujourd'hui? Par exemple, quelles sont des découvertes récentes qu'on a sur les textes?
Écoutez, nous sommes en train de préparer un grand colloque international prévu pour la fin de l'année à Istanbul, et il va traiter cette question que vous venez de poser. Alors, très regrettablement, la recherche en codicologie,
J'ai complété ma question. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de figé, finalement?
Non, ça n'est pas figé.
Ou on continue aujourd'hui à faire des découvertes?
Non, on continue toujours à faire des découvertes, parce que si on revient juste aux 10 dernières années, nos connaissances, elles ont beaucoup évolué par rapport à l'actualité. Mmh. Et demain, ça sera certainement le cas.
Sur quoi, par exemple?
Bah, vous savez, les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, elles apportent une lumière sur des fragments coraniques qui datent autour de 40, 50, 60, 70 de l'Égir. Mmh. Ce qui nous intéresserait aujourd'hui, c'est de découvrir quelque chose qui se rapproche plus des années 30 ou des ben années oui. 20 ou des années
10. Mais est-ce qu'on continue aujourd'hui à faire des découvertes?
On continue à faire des découvertes, bien évidemment. Mmh. Bien évidemment. Mais ce sont des découvertes qui sont très maigres parce que c'est vraiment un travail de fourmi.
Mais il y a encore du nouveau.
Il y a toujours du nouveau. Tous les jours, il y a du nouveau.
Vous êtes un amoureux des livres. Aujourd'hui, alors moi j'ai appris par exemple qu'on pouvait aller à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France. On oui. peut justement voir ces feuilles auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, voilà, si vous demandez là quoi faire pendant les fêtes de fin d'année, vous allez à la BNF.
C'est ça, exactement.
Ouais, c'est intéressant. Et quels sont les plus beaux livres qui vous ont été amenés de voir, par exemple dans les Corans, les plus prestigieux.
Les plus prestigieux parmi tous, ils sont très nombreux. Mais personnellement, j'ai été touché par deux Corans. Un Coran que l'on appelle le Coran bleu, c'est un Coran qui a été écrit sur un support bleu magnifique avec de l'encre d'or. Mmh. C'est un Coran qui a été produit à l'époque abbasside, plus précisément sous le califat de Mamoun, donc qui est le fils de Haroun al-Rachid, le célèbre
Haroun. On en a un Mamoun, mais c'est pas le même.
C'est pas le même. Et donc ce Coran, il est magnifique, il est bleu en faisant référence au ciel, le bleu il renvoie au ciel, avec une calligraphie koufique très ancienne et à la lettre d'or. Il est vraiment magnifique. Et à côté de ce Coran-là, il y a un deuxième que j'aime beaucoup, c'est un Coran pourpre. Il a été fait sur un support pourpre et qu'il a été écrit...
Donc c'est rouge, c'est plutôt rouge.
Plutôt pourpre, vraiment c'est une la, couleur d'accord. pourpre. Et l'encre qui a été utilisée pour la rédaction du texte, c'est de l'argent. Alors nous avons un Coran qui est écrit avec de l'or, ouais. et puis un autre avec de l'argent. Ils sont tous deux magnifiques. Le premier, il a été écrit donc sous l'Empire abbasside, et le deuxième, il est andalou. On n'arrive pas vraiment à situer le calife qui en a été le commanditaire. Mais ce sont deux Corans magnifiques.
Et on les voit où aujourd'hui?
Alors le Coran pourpre, il se trouve à la BNF.
Donc,
Bibliothèque Nationale de France.
Voilà, deuxième bonne raison d'aller à la BNF.
Et le deuxième, il est visible au musée tunisien de Bardo.
Du Bardo.
Voilà, c'est ça.
À Tunis. Oui. Bien, Imam Abdel Ali, vous partez dans quelques jours justement à Istanbul. Qu'est-ce qu'on voit au musée Topkapi? Il y a des Corans particuliers?
Alors effectivement, il y a le fameux un codex du Coran ottomanien, mais c'est une copie qu'il y a sur qui est posée dans dans une vitrine,
d'accord. Ouais,
mais qui est exactement avec les mêmes. On dit que ce sont les lettres. Ils disent. Hein, alors voilà, parce qu'il y a dans ce musée-là, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies et loin de l'être, je dirais même. Par exemple.
Alors on dit qu'il y a des reliques du prophète, par exemple.
Eh bien, il y aurait. C'est pour ça que je suis au conditionnel. Le turban du prophète, l'épée du prophète, l'arc du prophète, la robe, le fameux manteau Burdat an-Nabi alayhi as-salam. On parle aussi de sandales, de comment on appelle ça, de verre ou de sorte de pot dans lequel il buvait de l'eau, des dents, des cheveux. Ça, par contre, c'est plus sûr, c'est plus authentique qu'il y ait des cheveux et des poils de barbe, de la barbe du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. C'est plus authentique que les autres. Mais il y a un truc qui est beaucoup moins authentique, c'est par exemple le bâton de Moïse. Ça, c'est impressionnant d'avoir le bâton de Moïse. Imagine le bâton avec lequel il a ouvert la mer.
Mmh. Le bâton. Ouais, si on me dit que c'est au musée, tu sais, s'il y a écrit.
T'imagines le bâton qui ouvre la mer, il est où?
Mais c'était peut-être le bâton qui était dans le film.
Il y aurait même une casserole qui aurait appartenu à Abraham, prophète Abraham. Mmh. Un turban qui aurait appartenu au prophète Joseph, Sayyidina Yusuf alayhi salam.
Une casserole estampillée Seb. Mmh.
C'est bien.
Moulinex. J'en sais rien.
Il y a pas de casserole.
Non, c'est vrai qu'elle est impressionnante. C'est impressionnant parce qu'elle est très rudimentaire. Enfin, même
il y a beaucoup de choses à voir.
Il y a beaucoup de choses à voir, bien sûr, c'est très intéressant. Mais en tout cas, on sent cet esprit de respect qu'ils ont, ces Turcs, pour la personne du prophète Mohammed Sam et ses reliques. On sent vraiment, parce qu'il y a un travail énorme de conservation. Il y a une dimension de sacralité. Il est interdit de prendre des photos. Il est interdit de hausser la voix. Il y a une récitation du Coran qui se fait 24 heures sur 24 par un homme derrière dans une cabine qui récite le Coran 24 heures sur 24.
En vrai, et c'est pas,
c'est pas une cassette.
C'est pas un CD. Les cassettes, oui.
C'est un monsieur qui récite le Coran, mais en plus avec une voix magnifique, hein. Il le fait, dans le style, Absalmond Albast, quoi.
Même quand le musée est vide.
Oui, 24 heures sur 24. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Alors maintenant, on n'a pas vérifié,
bon,
hein, Philippe.
En tout cas, vous partez quand?
Eh ben, ça sera le 23 février, donc c'est encore quelques semaines encore devant nous.
Voilà, on peut s'inscrire à quel numéro,
Imam? Au 06 29 25 35 00, ouais, bien sûr, pour ceux qui veulent venir avec moi à Istanbul. Et ensuite, à Médine, voir la tombe du prophète. Là, par contre, il n'y a pas photo. Il est bien enterré là-bas, dans la mosquée du prophète, la mosquée, donc la maison de Aïcha radiallahu anha, qu'on visitera, bien sûr. On visitera aussi le cimetière de Al-Baqi', là où s'est enterré sa famille, ses compagnons, des milliers d'hommes et de femmes médinois et médinoises qui sont morts à Médine. Le cimetière des martyrs à Uhud, hein, où est enterré Hamza, donc le lion de Dieu, comme on l'appelait, Asadullah, Moussa ibn Umair, etc. Et puis ensuite, une descente en bus en état de sacralisation pour accomplir la Umra, et dans lequel on restera 6 jours à la Mecque, dans un bel hôtel 5 étoiles. Donc ceux qui veulent venir avec moi sont les bienvenus. 06 29 25 35 00, je répète, 06 29 25 35 00. Voilà.
Voilà, et vous pouvez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali. Merci, Marba. Imam Abdelali. Rendez-vous jeudi prochain. Merci Karim Ifrap de nous avoir vraiment abreuvé de tout votre savoir. Passez une très belle journée sur Beurre FM.
Tout le plaisir est pour moi. Merci.